Vous êtes sur RTL. On défait le monde dans RTL Soir. Julien Cellier, Cyprien Cini.
18h et presque 40 minutes, vous écoutez RTL Soir et c'est donc l'heure de défaire le monde. Maintenant, Cyprien Cini, Céline Landreau, Laurent Tessier, le trio s'est installé. L'info avec un autre regard, la promesse elle est simple, on va vous apprendre plein de choses jusqu'à 19h. Le menu Cyprien.
Ce soir, on défait les profs. Problème de niveau, crise de la vocation, danger de pénurie. Vous allez découvrir pourquoi les premiers résultats du CAPES illustrent une filière en souffrance. Au menu également, un autre professeur, le professeur Raoult, visiblement emballé par l'astrologie. Et comme le programme est très scientifique ce soir, on vous parlera aussi de bactéries pour nous apporter la lumière. On défait le monde de la quotidienne, c'est parti.
On défait le monde dans RTL Soir.
Et on commence avec le son du jour.
Ouais, enfin là, on aimerait surtout qu'il y ait des teachers, des profs pour nos enfants. Car les derniers résultats du CAPES 2022, l'examen pour devenir prof, viennent de tomber et c'est un peu la cata. Hein. En maths, l'éducation nationale a besoin pour la rentrée prochaine de 1035 profs. Seulement 816 candidats sont admissibles. Même pas encore admis, hein. Admissibles. En allemand, 83 admissibles pour 215 postes.
Alors cet après-midi, le ministère d'Éducation nationale a justifié ces chiffres par une réforme du concours. Mais le problème n'est pas nouveau. Et depuis plusieurs années déjà, dans ces matières, eh bien, les candidats haut niveau justement ne se bousculent pas.
Alors face à cette tendance qui s'aggrave, l'équipe d'On défait le monde a voulu y voir plus clair.
Pourquoi y a-t-il moins d'admissibles que de postes proposés? Va-t-on vers une pénurie de profs? Et les élèves vont-ils en subir les conséquences?
Pour le savoir, on a échangé avec le directeur de Sciences Po Lille, c'est Pierre Mathieu. Il a écrit de nombreux rapports pour différents ministres de l'Éducation nationale. Et concernant l'écart entre les admissibles et les postes vacants, alors il pointe évidemment le nombre insuffisant de candidats, mais pas seulement.
Il est évident là que si on a moins d'admissibles qu'il n'y a de postes proposés, c'est que les correcteurs des épreuves écrites ont mis des mauvaises notes et que donc ils ont considéré que le niveau des candidats était faible, bien sûr. Les bons élèves en mathématiques préfèrent sans doute des études d'ingénieurs, des études dans l'informatique par exemple, et des métiers dans l'ingénierie ou notamment dans l'informatique qui sont mieux rémunérés que de devenir professeur après avoir décroché le CAPES. Et même si c'est en train d'être revalorisé, on gagne par mois 1500-1600 euros. Il y a cette problématique-là qui existe, plus la problématique du métier qui apparaît comme un métier beaucoup plus difficile qu'avant.
Résultat, les très bons élèves en maths, mais alors ça marche aussi avec d'autres matières, hein, ne veulent plus devenir prof et le niveau général baisse, mais alors baisse vraiment.
Ce qu'on ne sait pas là sur les mathématiques, c'est quelle a été la moyenne aux écrits qui a permis d'être admissible. Il est probable que cette moyenne est en dessous de 10. Il s'agit d'un concours. Donc le jury décide de déclarer admissible les 816 premiers de ce concours, mais il n'est pas impossible que le 816e ait eu 6 ou 7 de moyenne générale aux écrits. Le jury a considéré en regardant les copies qu'à partir du 817e, les résultats aux écrits de ces candidats n'étaient pas suffisamment bons, qu'en gros, ce n'est même pas la peine de les entendre à l'oral. Une chose qu'il ne faut pas oublier, hein, c'est que le jury, il est un peu sous pression. C'est-à-dire que le jury, il se dit, aïe, le ministère a mis 1035 postes, si j'en recrute que 700, je mets quand même le ministère un peu dans la mouise. Donc parfois, ils sont tentés de remplir quand même les postes tout en se disant, on les remplit, mais on ne rend pas service. Quoi.
Donc là, ce que vous nous expliquez, c'est qu'on accepte quelque part des futurs profs qui n'ont même pas la moyenne, et malgré ça, on a moins de candidats qu'il n'y a de postes à pourvoir.
Exactement.
Donc ça veut dire qu'il y a des postes qui sont vacants.
Exactement. Et alors pour qu'il y ait quand même un prof pour faire cours à votre enfant,
D'un côté, on demande aux professeurs qui sont déjà en poste de faire des heures supplémentaires. Et ensuite, effectivement, on fait appel à des contractuels. Et le paradoxe, c'est que souvent, on fait appel comme contractuel à des enseignants qui n'ont pas réussi le CAPES, à des personnes qui n'ont pas franchi le cap, donc qui avaient été jugées insuffisamment compétents, et puis qui, en plus, comme ils sont contractuels, n'ont pas bénéficié de la formation des stagiaires dans le cadre des écoles de formation au métier de professeur. Donc c'est sûr que c'est pas nécessairement une très bonne nouvelle pour les élèves qui ont ce type de professeur en face d'eux.
C'est un peu catastrophique ce que vous nous expliquez là.
Oui, alors après, cette histoire de niveau des profs, faut quand même la relativiser.
Il faut pas faire une relation de symétrie entre, ça va être de mauvais profs parce qu'ils ont eu 6 aux épreuves écrites. On peut être un bon prof de mathématiques, bien s'en sortir, sans nécessairement avoir un niveau de cador. On est en France dans une tradition de recrutement des professeurs qui valorise vraiment un très haut niveau de compétences disciplinaires et qui valorise moins un bon niveau de compétences pédagogiques. Être bilingue en allemand ne fait pas de vous, mécaniquement, un très bon professeur d'allemand. Avoir gagné plein de concours de mathématiques quand vous étiez étudiant ne fait pas de vous un très bon professeur de mathématiques. Parce qu'en collège, le niveau qu'ils ont suffit très largement à répondre aux attentes du programme de collège, par exemple.
N'empêche, mais que la formation des profs Ça sera certainement au programme du prochain ou de la prochaine ministre de l'Éducation nationale.
Et on lui souhaite, ou on leur souhaite en tout cas.
Bonne chance.
Au prochain, bonne chance, effectivement. Beaucoup de courage.
RTL. Sous les radars.
Allez, tous les soirs à cette heure-ci, on défait l'info qui est passée pendant la journée sous les radars.
Et alors attention, jeu de mots, vous allez comprendre, une info éclairante ce soir, Laurent.
Oui, c'est peut-être la lumière du futur. La commune de Rambouillet dans les Yvelines va expérimenter à partir de l'automne un éclairage par des bactéries transformées en ampoules vivantes. Une lumière, vous allez le voir, 100% naturelle. C'est juste très scientifique en ce moment. Hein. Une lumière 100% naturelle et la ville a fait appel à une start-up francilienne, Glowy. Sa fondatrice Sandra Ray nous présente ce concept.
Alors en fait, les bactéries naturellement produisent de la lumière et nous, notre métier, c'est de les cultiver, de trouver les meilleures conditions de culture pour qu'elles fassent la meilleure lumière possible et de créer des sortes d'aquariums en fait qui vont s'intégrer dans du mobilier urbain pour rendre possible la lumière en continu de bioluminescence. C'est une réaction donc chimique qui arrive naturellement lorsque les bactéries sont en croissance. On les fait simplement évoluer comme elles pourraient évoluer dans la nature pour ensuite sélectionner celles qui font le plus de lumière.
L'énergie produite donc par ces bactéries devient une énergie lumineuse comme le font les lucioles et les méduses.
Alors c'est formidable votre truc, mais oui. C'est quoi l'intérêt en fait? Ah,
ça permet de lutter contre la pollution lumineuse puisque l'éclairage est un peu moins puissant que des lampadaires classiques. Autre avantage évidemment, ces lampadaires sont moins consommateurs d'énergie.
Ça compte en ce moment.
Ça compte, vous imaginez. Et l'expérimentation aura lieu sur une place de Rambouillet pendant 4 mois. Si le résultat est positif, ces lumières faites par les bactéries seront utilisées dans d'autres lieux de la commune.
C'est donc assez incroyable, hein, effectivement. Petite pause, on continue de défaire le monde dans RTL Soir. On va vous livrer une première info pour briller au dîner. On ne va pas briller avec des bactéries mais avec de l'huile de friture.
Ouais, c'est assez varié ce soir.
Julien Cellier, Cyprien Sini ont défait le monde. L'info pour briller dans On défait le monde.
18h48 minutes, on défait toujours le monde dans RTL Soir. Bonne fin de journée, on est ravis de vous accompagner et ravis de vous donner une occasion de briller ce soir. Au dîner, première info.
C'était le RTL événement ce matin à 7h15, vous l'avez peut-être entendu en direct. Virginie Garin nous emmenait dans les coulisses d'une usine Le Sueur d'embouteillage d'huile de friture. Le Sueur et ce logo hyper connu, vous savez les quatre carreaux rouges qui vous inspirent, Laurent.
Oui, Le Sueur, entreprise historique créée en 1908 et ce logo, bah, c'est vrai qu'on a tous vu au moins une fois à table ou au supermarché. Et bien, quelques mois après la création, quatre carreaux rouges sont lancés pour représenter tout simplement l'union de Georges Le Sueur, le fondateur, et ses trois fils, Maurice, Henri et Paul. C'est donc une histoire de famille,
ça,
tout simplement.
C'est une bonne occasion pour briller ce soir au dîner.
S'il vous reste de l'huile de friture chez vous, parce qu'il n'y en a plus.
Il n'y en a plus beaucoup, mais si vous apportez tranquillement la bouteille comme ça, vous la posez dans la cuisine. Et dis donc, tu sais pourquoi ça marche très très bien. Bravo Laurent.
On défait le monde. Julien Cellier, Cyprien Sini.
Alors ce soir, winner ou loser, place au verdict. Et ce soir, ça va peut-être vous étonner. Mais Céline, avec le soleil, les oiseaux, tout ça, elle est de bonne humeur. Elle a choisi un winner.
Mais oui, un grand gagnant qui semble. Alors, j'ai bien dit qu'il semble avoir décidé de radicalement changer de voix, Céline.
Oui, parce que rappelez-vous, en septembre dernier, Didier Raoult confiait chez nos confrères de BFM.
Dans un an, je pense, je quitterai les fonctions de directeur de l'IHU.
Voilà, donc à la rentrée 2022, après l'été, ça approche. Et alors, en regardant son dernier bulletin d'information, on a presque deviné le futur employeur du professeur.
Cabinet de voyance, reconnu pour son sérieux et ses réussites. Méthode haïtienne très puissante.
Ouais, alors bon, lui, c'est plus l'astrologie que la voyance. Mais quand même, il était donc interrogé sur la pertinence des projections des épidémiologistes concernant le Covid.
Mais j'imagine que cette manière de prédire l'avenir est au moins plus efficace que d'autres manières, comme l'astrologie par exemple.
Et alors là, le professeur microbiologiste, on le rappelle, spécialiste des maladies infectieuses, le scientifique donc, répond.
Alors je suis pas d'accord, d'ailleurs je veux faire mes excuses quand je me trompe, quand je dis que les modèles prédictifs sont de même nature que les astrologues. Les astrologues sont supérieurs.
Les astrologues meilleurs que les épidémiologistes. Alors, ça pourrait passer pour une simple provocation à l'égard de confrères qui n'ont pas été tendres avec lui.
Il y a des gens qui disent que je ne suis pas un vrai scientifique, alors je m'intéresse à l'astrologie.
Et là, tel un nouveau converti, il développe.
Il existe des phénomènes extrêmement étranges.
Tiens donc.
Et puis il y a des choses qui sont encore bien plus curieuses.
L'espérance
de vie dépend du mois de naissance. Ceux qui sont nés en automne vivent moins longtemps que ceux qui sont nés au printemps. Sur le Covid, alors il y a aussi une tendance qui n'est pas la même, à avoir plus de morts chez les gens qui sont nés en décembre-janvier. Là, c'est inversé par rapport à ce que l'on voit en général.
Ah.
Et puis il y a des choses qui sont encore bien plus curieuses.
Mais quoi?
Il y a des gens qui disent que l'anniversaire porte malheur. eh bien, il y a plus de gens qui meurent autour de leur date anniversaire.
Incroyable.
Et puis, il y a quelque chose qui est encore plus étrange.
Encore ?
Et alors, la marmotte, elle met le chocolat dans le papier d'alu.
Non, pas ça quand même. Un peu plus sérieux.
En Extrême-Orient, on considère que le chiffre 4 porte malheur. Et donc, ils ont regardé au Japon et en Chine s'il y avait plus de gens qui mouraient le 4 du mois que les autres jours. Et la réponse, c'est oui. Vous voyez ?
Ah bah oui, on voit oui. Merci professeur, on fera attention le 4 juin prochain alors.
Donc si j'écoute bien Didier Raoult, quand on est né en décembre et janvier, il faut faire attention quoi.
Ça vous inquiétait ça. Hein.
Vous êtes né en décembre aussi,
ouais,
c'est
quoi. Moi je suis né en décembre.
Ouais, vous êtes comme moi, un petit peu hypochondriaque.
J'ai mal à
plus.
Ma science là ce soir. Bon.
Merci beaucoup Céline. Petite pause dans un instant. Nouvelle info pour briller au dîner avec des ministres. A tout de suite.
On défait le monde dans RTL Soir. L'info pour briller. Dans On défait le monde.
18h54, on défait toujours le monde. Bonne fin de journée avec RTL Soir et on vous offre une nouvelle info pour briller au dîner.
Dernier conseil des ministres, a priori.
A priori.
A priori.
On peut toujours être surpris.
Oui, mais toujours a priori, de toute façon, avec Emmanuel Macron. Donc c'était aujourd'hui hein, pour le gouvernement Castex. Mais vous, Céline, vous êtes intéressée aux ministres qui n'en ont pas connu beaucoup des conseils des ministres.
Oui, des membres du gouvernement, disons. Éphémères. Ouais. Et ils sont deux à détenir le record du plus court passage dans un ministère. Le plus récent, vous vous en rappelez peut-être, c'est Thomas Thévenoud, démissionnaire.
Ah oui.
9 jours, exactement, 9 jours seulement après sa nomination au secrétariat d'État au commerce. Vous l'avez dit, Julien, rattrapé par sa phobie administrative et disons quelques problèmes de conformité avec les impôts. Thomas Thévenoud qui égalait ainsi le record établi par Léon Schwarzenberg, ministre de la Santé du 29 juin au 7 juillet 1988. Léon Schwarzenberg qui, quelques heures seulement après sa nomination, envisageait de distribuer des drogues de substitution pour lutter contre le trafic de drogue. Proposition pas vraiment du goût du reste du gouvernement à l'époque.
Le professeur Schwarzenberg, il était médecin de formation.
C'est ça.
Très très bonne info pour briller ce soir au dîner, mais je pense que l'info le sieur, à table, au moment des frites,
ça passe.
Et c'est vrai que ça passe. Un peu plus facile à caser.
Après, si vous êtes plus régime crétois, huile d'olive...
Ça marche aussi.
Ouais, ça marche. Je pense que pour une fois, victoire de Laurent, ça vaut une petite hola dans le studio.
Merci, merci.
Bravo. On applaudit en régie.
Merci à tous.
Marche ou rêve.
Allez, marche ou rêve, tous les soirs, vos jolies idées, vos jolis projets, on aime les mettre en avant, en valeur, juste avant 19h.
Et alors, on vous en parle souvent, la mode est l'une des industries les plus polluantes qui existent. Et pourtant, Laurent, eh ben, c'est pas une fatalité.
Non.
Vous pouvez porter des vêtements, tiens, fabriqués à partir du plastique retrouvé dans les océans. Et Céline a lancé avec son mari Daniel la marque West and Sea, en français ça veut dire la fin des déchets dans la mer. Une partie du chiffre d'affaires est reversée à une association environnementale. Bonsoir Céline.
Bonsoir.
Comment fait-on pour faire des sweats en plastique recyclé?
Alors, c'est plus simple que ce qu'on pense, hein, parce que c'est vrai que beaucoup de personnes nous ont posé la question. On travaille avec une association espagnole, donc Sico l'Initiative, qui affrète des pêcheurs en mer. Et lorsque les pêcheurs remontent les filets, généralement, ils ont du plastique et ils le rejettent à la mer. Sauf que cette association récupère les plastiques, elle les trie, elle les transforme en paillettes et ensuite en fil. Et nous, on achète ce fil pour ensuite fabriquer des vêtements.
C'est génial.
C'est complètement vertueux. Et alors, du coup, pourquoi 50% bio également?
Oui, alors du coup, c'est par rapport au confort, je vous mens pas, c'est par rapport au confort, effectivement. Si on avait mis que du plastique marin dans nos vêtements, les vêtements étaient juste immétables, hein, donc c'était ça grattait, c'était pas du tout confortable. Hein. Donc du coup, on a profité du confinement pour faire des essais, on a reçu des prototypes hein, et on a trouvé un bon compromis entre le fil plastique marin et le coton bio.
Et on est allé regarder sur votre site internet parce qu'on est curieux.
Ouais, ils sont bien,
ils sont super jolis vos suites.
Moi, je les trouve super beaux pour le coup, c'est clair. Ils sont vraiment canons. Alors, l'idée de base, en fait, c'était vraiment de sensibiliser via la mode, en fait. Parce qu'on avait nos filles à la base, et c'est ça la véritable histoire, c'est que nos filles, pendant le confinement, lors d'une discussion tous les quatre, nous disaient que la mode éco-responsable était trop classique, que c'était pas du tout tendance. Et leur père, qui est styliste depuis 20 ans, les a prises à contre-pied et leur a dit, ben moi, je vais vous montrer qu'on peut être très tendance et très stylé et engagé en même temps.
Ah ouais. Non, parce que si c'était moche, on n'aurait pas fait le sujet. Hein,
non, c'est clair.
Non, mais j'en suis persuadée.
Et en plus, il y a une partie du chiffre d'affaires qui est reversée à une association.
Tout à fait, exactement. On a voulu pousser encore plus loin le message et on a rencontré Project Rescue Océan, donc une association qui nettoie les plages du plastique. Et donc, on leur reverse un pourcentage de notre chiffre d'affaires pour contribuer au nettoyage des plages.
Une marque française, une bonne action pour l'environnement et une association. Merci Céline. Et pour toutes celles et tous ceux qui sont intéressés, rendez-vous sur votre site internet westnc.com. West, W-A-S-T.
N comme la fin et si, S-E-A.
Pour ceux qui sont sont mauvais en anglais.
Génial, c'est super bien.
Bonne soirée.
Merci beaucoup.
Merci Céline, bonne soirée. Et merci à vous, les amis dont défait le monde. On se retrouve demain.
Absolument.
Même heure, même endroit, 18h40 dans RTL Soir pour de nouvelles péripéties. Qu'est-ce qu'il y a, Céline? Vous vouliez ajouter quelque chose?
Elle me regarde bizarrement.
Je vais
te dire à demain.
À demain, Céline.
À demain.